Vous êtes toujours bien calé sur les ondes de Fréquence Bonheur à l'écoute de Pouvoir Illimité, Anthony Robbins, avec vos animateurs préférés Marie-Hélène et Pierre. Nous avons laissé en compagnie du meilleur compagnon ou compagne que la Terre ait jamais porté, vous-même. Nous avons plaisir à vous retrouver maintenant. Comment vous sentez-vous après avoir fini cette expérience de comparaison entre une croyance et une situation dans laquelle vous êtes rempli d'incertitude ? Si vous avez transformé avec précision la représentation qui vous plongeait dans l'incertitude, vous serez certain de la chose dont vous doutiez encore il y a seulement quelques instants.
La seule difficulté que rencontrent les gens tient à ce qu'ils ne croient pas qu'on puisse changer les choses aussi vite. C'est une croyance limitative qui va infiltrer l'expérience du changement. Les gens ont parfois une raison de conserver cette croyance car s'ils pouvaient vraiment tout changer, ils deviendraient responsables de leur vie. Cette croyance limitative peut être aisément surmontée en leur faisant vivre une expérience qui aille à l'encontre de leur croyance, selon laquelle les changements se produisent lentement. Ils peuvent aussi former une représentation de cette croyance, puis la transformer de manière que ses sous-modalités soient identiques à celles des choses dont ils ne sont pas convaincus, et transformer par conséquent une chose à laquelle ils croient en une chose dont ils doutent.
Il peut parfois nous être utile de nous créer des doutes au sujet de certaines de nos croyances les plus anciennes et les plus enracinées. Vous avez peut-être découvert que vous croyez à des choses qui ne vous sont pas vraiment utiles. Ce sont peut-être des croyances que vous avez copiées sur votre environnement. Rien ne vous empêche de manipuler ces croyances limitatives et de faire naître un sentiment de doute à leur égard. Elles cesseront bientôt d'agir sur votre comportement. On a appris par exemple à beaucoup de gens qu'ils n'étaient pas intelligents, pas sportifs ou pas séduisants. Or, leur système de croyances peut être modifié. Et dès que c'est fait, leurs sentiments sur eux-mêmes et leurs comportements changent également.
Le même procédé peut être utilisé pour découvrir la différence entre les notions qui sont confuses dans votre esprit et celles que vous avez l'impression de comprendre.
Si une notion est confuse pour vous, c'est peut-être parce que la représentation interne que vous en avez est petite, floue, obscure et éloignée, alors que celles que vous comprenez sont représentées par une image proche, lumineuse et nette.
Voyez ce que deviennent vos impressions quand vous avez modifié vos représentations de la notion confuse afin qu'elle soit identique à celle des notions que vous comprenez.
Rapprocher les images ou leur donner plus de luminosité ne les rend pas plus intenses pour tout le monde. Il arrive que ce soit le contraire. Certaines personnes ont l'impression que les choses prennent plus de corps quand elles s'obscurcissent et s'assombrissent. Il faut donc découvrir quelles sont les sous-modalités essentielles pour vous ou pour la personne que vous voulez aider à changer, et avoir ensuite assez de pouvoir personnel pour utiliser ces outils jusqu'au bout.
En travaillant ainsi sur les sous-modalités, nous rebaptisons le système de stimuli qui ordonne au cerveau ce qu'il doit ressentir dans telle ou telle circonstance. Le cerveau réagit à tous les signaux, sous-modalités, que vous lui transmettez.
Si vous émettez un certain signal, le cerveau éprouvera de la douleur.
Si vous lui en transmettez un autre par des sous-modalités différentes, peut-être vous sentirez-vous bien au bout de quelques instants.
Lors d'un séminaire de formation neurolinguistique pour professionnels que j'ai dirigé un jour à Phoenix, en Arizona, j'ai remarqué qu'un grand nombre de personnes dans la salle avaient les muscles du visage très tendus et adoptaient des expressions que j'ai prises pour de la douleur. J'ai passé mentalement en revue tout ce dont j'avais parlé, et je n'ai rien découvert qui ait pu déclencher cette réaction chez tant de gens. J'ai donc fini par demander à quelqu'un.
Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant même ?
J'ai très mal à la tête,
m'a répondu mon interlocuteur.
À peine avait-il dit cela, qu'un autre s'est plaint du même mal, puis un troisième, et ainsi de suite. Plus de 60 personnes avaient la migraine. Elles expliquèrent que les projecteurs qui les éclairaient pour que le séminaire soit filmé en vidéo les éblouissaient et que c'était très fatigant. De plus, nous étions dans une pièce sans fenêtre et la ventilation était tombée en panne 3 heures plus tôt, si bien que l'atmosphère devenait très étouffante. tous ces éléments conjugués avaient provoqué un changement dans la physiologie de ces gens.
Que pouvais-je faire ? Les envoyer prendre un comprimé d'aspirine ?
Évidemment non. Le cerveau ne cause de la douleur que s'il reçoit un stimulus qui lui dit de ressentir de la douleur. J'ai donc demandé aux gens de décrire les sous-modalités de leur douleur.
Pour certains, il s'agissait d'une sensation pesante, avec des élancements.
Pour d'autres, non.
Pour certains, c'était quelque chose de volumineux et de très éclairé.
Pour d'autres, une petite masse sombre.
Je leur ai alors demandé de modifier les sous-modalités de leur douleur, d'abord en se dissociant d'elles et en la plaçant en dehors d'eux.
Puis, je les ai fait sortir de leurs sensations en leur demandant d'imaginer une forme à la taille de leur douleur et de la placer à environ 3 mètres devant eux.
Je leur ai dit ensuite de gonfler et de dégonfler cette représentation, de la retrécir à nouveau et enfin de pousser leur douleur jusqu'au soleil et de la regarder fondre à son contact.
Puis de la ramener sur la terre sous forme de rayons de soleil pour faire pousser les plantes.
Finalement, je leur ai demandé comment ils se sentaient.
En moins de 5 minutes, 95% des personnes souffrantes n'avaient plus mal à la tête.
J'avais modifié la représentation de ce qu'ils ordonnaient à leur cerveau de faire, et leur cerveau, recevant désormais de nouveaux signaux, avait provoqué une nouvelle réaction.
Pour les 5% restants, il fallut encore passer 5 minutes à opérer des changements plus précis.
Quand je décris ce procédé, certaines personnes ont du mal à croire qu'elles puissent éliminer la douleur aussi rapidement.
Pourtant, n'avez-vous pas déjà fait cela inconsciemment de très nombreuses fois ? Ne vous rappelez pas une occasion où vous ressentiez de la douleur et où vous avez été absorbé par autre chose ? Un événement amusant qui s'est produit au moment même, par exemple ?
Inconsciemment, vous avez alors modifié ce que vous vous représentiez et vous avez cessé de souffrir. La douleur peut disparaître et ne pas revenir à moins que vous vous ne mettiez à vous la représenter. Grâce à une petite action consciente sur vos représentations internes, il est facile d'éliminer à volonté le mal de tête.
En fait, quand on connaît les signaux qui provoquent des effets particuliers dans son cerveau, on peut se mettre en condition de ressentir quasiment ce qu'on veut dans n'importe quelle situation.
Dernière mise en garde.
Un grand nombre de filtres de l'expérience humaine peuvent affecter notre capacité à maintenir de nouvelles représentations internes, ou même à les faire tout simplement apparaître, ne serait-ce qu'une fois. Ces filtres sont liés à ce à quoi nous tenons le plus et aux avantages inconscients que peut nous procurer notre comportement actuel. L'importance des valeurs fait l'objet d'un chapitre particulier et nous parlerons des bénéfices secondaires inconscients au chapitre 16 à propos du processus de restructuration des schémas. Si la douleur vous envoie des signaux importants au sujet de quelque chose que vous devez modifier dans votre corps, à moins que vous ne répondiez à ce besoin, la douleur reviendra certainement parce qu'elle vous est effectivement très utile comme signal.
Ce chapitre vous a fourni les principaux outils nécessaires pour faire fonctionner votre cerveau. Dans beaucoup de cas, vous obtiendrez les résultats désirés en opérant seulement sur les sous-modalités. Vous avez vu comment on peut transformer un état en modifiant la structure d'une représentation interne. C'est généralement plus que suffisant pour changer un comportement. Pourtant, si c'était tout ce dont vous aviez besoin, nous n'aurions plus qu'à fermer boutique immédiatement.
Pour que ce travail soit efficace, nous devons être en mesure de transformer systématiquement nos représentations internes. La méthode du coup de fouet est une des principales techniques qui garantissent cette transformation. Mais d'autres facteurs jouent sur la représentation que nous nous faisons du monde. La physiologie, les métaprogrammes, les cadres de référence et les points d'ancrage, tous ces éléments affectent le sens, le type et la qualité de nos représentations, et donc ce que nous ressentons et notre façon d'agir. Nous étudierons ces différents facteurs dans les chapitres qui suivent. Tous constituent des outils supplémentaires pour opérer les changements durables que nous souhaitons. Auparavant toutefois, il faut que nous étudions un autre aspect de la façon dont nous structurons nos expériences, un élément crucial sans lequel l'imitation du comportement humain serait difficile ou impossible. Après vous avoir résumé les principaux points de ce chapitre, nous allons examiner chapitre 7, la syntaxe du succès. Nous avons donc évoqué pour vous aujourd'hui, dans la première partie de cette rencontre, l'expérience du lance-pierre, un lance-pierre dirigé vers soi dans lequel la nouvelle image fracasse l'ancienne image.
Nous avons aussi pu aborder l'influence des submodalités sur l'état de dépression.
Nous avons abordé les différents paramètres du changement allant à l'encontre des idées reçues et confirmées par la physique quantique. Ces paramètres sont la possibilité de changement rapide et par saut d'énergie, par bond.
Nous avons vu également l'influence des images par lesquelles l'autre est perçu dans l'état d'amour.
Nous avons ressenti en nous les effets de l'état d'association à une image ou à un événement et de l'état de dissociation.
Puis nous avons pu aligner l'incertitude sur la certitude.
Cela nous permet d'aborder avec vous, tout de suite après la plage musicale, la syntaxe du succès.
Que tout soit fait correctement et dans l'ordre. Épître aux Corinthiens.
Tout au long de ce livre, nous avons essayé de découvrir comment les êtres humains agissent. Nous avons établi que les gens qui obtiennent des résultats remarquables opèrent systématiquement une série d'actions définies, à la fois mentales et physiques, actions intérieures dans leur esprit et actions extérieures sur le monde. Si à notre tour, nous nous livrons aux mêmes actions, nous obtiendrons des résultats identiques ou analogues. Il y a toutefois un autre facteur qui affecte les résultats. C'est la syntaxe de l'action, c'est-à-dire la manière dont nous ordonnons nos actions. Or, cette syntaxe peut modifier énormément les effets que nous produisons.
Quelle différence y a-t-il entre
le chien a mordu Pierre
et Pierre a mordu le chien?
Entre
Paul mange le homard
et le homard mange Paul.
Une grande différence, surtout si l'on s'appelle Pierre ou Paul.
Pourtant, les mots sont les mêmes. Ce qui change, c'est la façon dont ils sont disposés, la syntaxe. Le sens de la phrase est déterminé par l'ordre des signaux transmis au cerveau. Les mêmes stimuli sont en jeu, les mêmes mots, pourtant le sens est différent. C'est un point essentiel à saisir si l'on désire imiter efficacement les résultats obtenus par les gens qui réussissent. L'ordre dans lequel les choses sont présentées modifie la façon dont le cerveau les enregistre. Cela se passe exactement comme avec un ordinateur. Si vous lui donnez des instructions dans le bon ordre, l'ordinateur utilisera toutes ses fonctions et fournira le résultat escompté.
Nous nous servons du mot « stratégie » pour désigner l'ensemble des facteurs, représentations internes, sous-modalités et syntaxes qui contribuent à un résultat particulier.
Que nous voulions aimer, séduire, nous motiver, prendre des décisions ou quoi que ce soit d'autre, nous faisons presque toujours appel à une stratégie. Si nous réussissons à savoir quelle est pour l'amour notre stratégie, nous pourrons déclencher cet état à volonté.
Si nous savons quelles mesures nous adoptons et dans quel ordre, pour prendre une décision, lorsque nous serons indécis, nous pourrons nous sentir décidés en quelques instants. Nous saurons sur quelle touche appuyer et comment obtenir les solutions que nous attendons de notre bio-ordinateur interne.
Il y a une métaphore qui s'applique très bien aux éléments d'une stratégie et à leur emploi, c'est celle de la cuisine.
Si quelqu'un fait le meilleur gâteau au chocolat du monde, pouvez-vous en faire autant?
Bien entendu, à condition d'avoir la recette. Une recette n'est rien d'autre qu'une stratégie. Une liste d'éléments à utiliser d'une certaine façon et dans un certain ordre. Si vous estimez que nous avons tous le même système nerveux, vous devez admettre que nous disposons tous des mêmes ressources potentielles. C'est notre stratégie, la manière dont nous employons ces ressources qui détermine les résultats que nous obtenons. Cela est vrai aussi dans les affaires. Il arrive qu'une entreprise possède des ressources supérieures à une autre, mais celle qui utilise le mieux ces ressources finira généralement par dominer le marché.
De quoi avez-vous donc besoin pour faire un gâteau de la même qualité que celui du grand pâtissier?
d'une recette que vous devez suivre à la lettre. Si vous appliquez scrupuleusement la recette, vous obtiendrez les mêmes résultats, même si vous n'avez jamais fait de pâtisserie de votre vie. Il aura peut-être fallu des années de tâtonnement au pâtissier pour réussir parfaitement son gâteau. Vous, vous pouvez gagner des années en vous contentant d'imiter ce qu'il a fait.
Il existe des stratégies pour réussir financièrement, pour demeurer en bonne santé, pour se sentir heureux et aimer toute sa vie. Si vous connaissez des gens qui ont réussi financièrement ou qui ont des relations affectives satisfaisantes, il vous suffira pour produire les mêmes résultats en moins de temps et avec moins d'efforts qu'il ne leur a fallu de connaître leur stratégie et de l'appliquer.
Une recette qui nous donne le pouvoir d'agir efficacement nous fournit tout d'abord une liste des ingrédients nécessaires. Dans la cuisine de l'expérience humaine, les ingrédients sont les cinq sens.
Toutes les actions humaines résultent d'un emploi particulier des systèmes de représentation visuelle, auditif, kinesthésique, gustatif et olfactif.
La recette nous indique ensuite les quantités.
C'est le rôle que jouent les sous-modalités dans une stratégie. Elles déterminent en effet, par exemple, la quantité d'éléments sensoriels que doit comporter l'expérience, quantité de lumière ou d'ombre, de son, etc.
Mais cela ne suffit pas, il vous faut aussi connaître la syntaxe de fabrication.
Que se passera-t-il en effet si dans votre recette, vous mettez en dernier ce que le pâtissier met en premier ?
Obtiendrez-vous un gâteau de la même qualité ?
J'en doute.
Si en revanche, vous employez les mêmes ingrédients, en même quantité et dans le même ordre, vous obtiendrez bien entendu les mêmes résultats.
Dans tous les domaines de la vie, des séries de stimuli définis aboutissent toujours à un résultat défini. Les stratégies sont comme la combinaison qui permet d'ouvrir la chambre forte de vos ressources cérébrales. Vous avez beau connaître les chiffres qui la composent, à moins de les utiliser dans le bon ordre, la serrure ne s'ouvrira pas. Mais si vous connaissez les chiffres et l'ordre, la serrure s'ouvrira chaque fois. Il est donc nécessaire de connaître la combinaison qui ouvre votre chambre forte ainsi que celle qui ouvre les chambres fortes des autres.
Quels sont les éléments constitutifs de la syntaxe ?
Nos sens.
Nous sommes soumis à des signaux sensoriels à deux niveaux.
Interne
et externe.
La syntaxe est le moyen de combiner les éléments de ce que nous vivons extérieurement
et de ce que nous nous représentons intérieurement.
Nous avons par exemple deux types d'expériences visuelles.
La première, c'est ce que nous voyons du monde extérieur. En lisant ce livre, en regardant les caractères noirs imprimés sur fond blanc, vous faites une expérience visuelle externe.
La deuxième, c'est l'expérience visuelle interne. Rappelez-vous la façon dont nous avons joué au chapitre précédent avec des modalités et sous-modalités visuelles. Nous n'étions pas vraiment présents pour voir la plage ou les nuages, les bons ou les mauvais moments que nous nous représentions dans notre esprit. Nous les vivions d'une manière visuelle interne.
Il en va de même pour les autres modalités.
Entendre un train siffler par la fenêtre constitue une expérience auditive externe.
Entendre une voix dans son esprit, une expérience auditive interne.
Lorsque c'est le ton de la voix qui est l'élément important, il s'agit d'une expérience auditive tonale.
Si au contraire ce sont les mots, leur sens, on se trouvera en présence d'une expérience auditive logique.
Quand on sent la texture du bras du fauteuil sur lequel on s'appuie, on vit une expérience kinesthésique externe.
Si vous avez l'impression dans votre esprit que tel ou tel contact vous fait du bien, c'est une expérience kinesthésique interne.
Pour créer une recette, il faut disposer d'un système permettant de décrire ce qu'il faut faire et quand.
C'est pourquoi nous avons mis au point un système de notation grâce auquel nous pouvons décrire nos stratégies. Il s'agit d'une sorte de sténo servant à représenter les processus sensoriels.
V pour visuel.
A pour auditif.
K pour kinesthésique.
Petit i pour interne.
Petit e pour externe.
Petit t pour tonal.
Et petit l pour logique.
Ainsi, lorsque vous voyez un objet extérieur, visuel, externe, il peut être représenté par grand V, petit e.
Lorsque vous éprouvez une sensation interne, ce sera grand K, petit i.
Si l'on considère maintenant la stratégie d'un individu qui est motivé par ce qu'il a vu, grand V, petit e, puis qui se dit quelque chose à lui-même, grand A, petit i, petit l, et provoque un besoin d'action interne, grand K, petit i, l'ensemble de sa stratégie pourra être représenté par la formule grand V petit E, trait d'union grand A petit I petit L, trait d'union grand K petit I.
Vous pourrez parler une journée entière à cet individu pour le convaincre d'agir. Vous avez très peu de chances de réussir.
En revanche, si vous lui montrez un résultat et lui soufflez ce qu'il devrait se dire en se le voyant, vous réussirez probablement à le mettre dans l'état voulu presque sur le champ.
Au chapitre suivant, je vous montrerai comment découvrir les stratégies que les gens utilisent dans certaines situations.
Mais je veux d'abord vous montrer comment fonctionnent ces stratégies et pourquoi elles sont si importantes.
Nous avons des stratégies pour tout, mais nous sommes peu nombreux à savoir les utiliser consciemment.
C'est pourquoi nous nous mettons dans divers états et en ressortant selon les stimuli qui nous frappent. Il est donc nécessaire que vous identifiez la stratégie qui est la vôtre afin de susciter l'état désiré à la demande. Et il faut également que vous puissiez reconnaître les stratégies des autres afin de savoir exactement à quoi ils réagissent.
Avez-vous par exemple une façon systématique d'organiser vos expériences internes et externes quand vous faites un achat?
Certainement. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais il est probable que la syntaxe des stimuli qui vous attire vers une certaine voiture vous attirera aussi vers une certaine maison. Il existe des stimuli qui, placés dans le bon ordre, vont vous mettre automatiquement en état réceptif à l'action d'acheter.
Nous avons tous ainsi des enchaînements que nous suivons systématiquement pour susciter des états et des activités déterminées.
Présenter une information selon la syntaxe d'une personne est un moyen efficace d'établir une relation avec elle. En fait, s'il est utilisé efficacement, votre mode de communication devient quasi irrésistible parce qu'il déclenche automatiquement certaines réactions.
Quelles autres stratégies existent-ils?
Y a-t-il des stratégies de persuasion?
Existe-t-il des façons d'organiser le matériau que vous présentez à quelqu'un pour qu'il devienne presque irrésistible?
Sans aucun doute.
Et la motivation?
La séduction.
L'étude?
Le sport.
La vente?
Absolument.
Et la dépression?
Ou le bien-être?
Existe-t-il des façons particulières de vous représenter votre expérience du monde selon un certain ordre pour provoquer ces sentiments?
Bien entendu, il existe des stratégies de la gestion efficace.
Il existe des stratégies de la créativité.
Quand certaines choses déclenchent une réaction de votre part, vous vous mettez dans l'état correspondant. Il vous suffit de savoir quelle est votre stratégie pour accéder à cet état à la demande. Et vous devez être en mesure d'identifier les stratégies des autres afin de savoir comment leur donner ce qu'ils demandent.
Ce que nous devons donc découvrir, c'est l'enchaînement particulier, la syntaxe qui produit tel résultat, qui engendre tel état.
Si vous y parvenez et que vous désiriez provoquer l'action voulue, vous pourrez bâtir votre monde selon vos désirs. En dehors des denrées nécessaires à la vie, comme la nourriture ou l'eau, tout ce que vous pouvez désirer constitue presque toujours un état. La seule chose à connaître, c'est la syntaxe, la stratégie qui peut vous y conduire.
Un de mes plus grands succès en matière d'imitation s'est produit dans l'armée. On m'a présenté à un général avec qui j'ai commencé à parler des techniques de la performance optimale telles que la PNL.
Je lui ai dit que, quels que soient ses programmes de formation, je pensais pouvoir en raccourcir la durée de moitié tout en améliorant le niveau des individus formés.
J'avais placé la barre un peu haut, non ?
Le général parut intéressé, mais il n'était pas convaincu et m'a simplement recruté pour enseigner les techniques de la PNL. Comme mon séminaire avait donné des résultats, j'ai signé ensuite avec l'armée un contrat de création de programmes de formation et de séminaires d'imitation. Je ne devais être payé que si je réalisais ce que j'avais promis.
Le premier projet dont on m'a chargé concernait un programme de 4 jours de formation des recrues au tir au pistolet.
Jusque-là, une moyenne de 70% seulement des soldats qui suivaient ce stage atteignaient le niveau exigé et l'on avait dit au général qu'on ne pouvait pas espérer mieux.
J'ai alors commencé à me demander dans quelle galère je m'étais embarqué. Je n'avais jamais tiré au pistolet de ma vie et n'aimais même pas beaucoup l'idée d'appuyer sur une gâchette. Au départ, John Grinder devait travailler avec moi sur ce projet. Aussi me suis-je dit que, grâce à son expérience de tireur, nous réussirions à nous en sortir. Mais les dates ne lui convenaient pas. John se désista. Vous pouvez donc imaginer dans quel état j'étais. De plus, j'avais entendu dire que 2 membres du groupe, furieux à l'idée de la somme d'argent qu'on devait me payer, avaient décidé de me donner une leçon et allaient tout faire pour saboter mon travail. Ne possédant aucune expérience au tir, ayant perdu mon atout maître, John Grinder, et sachant qu'on allait essayer de me faire échouer, que pouvais-je faire ?
J'ai d'abord réduit littéralement à zéro l'immense image d'échec que j'avais formée dans mon esprit.
Puis j'ai commencé à constituer une nouvelle série de représentations de ce qui m'était possible. J'ai ainsi remplacé le système de croyance selon lequel les meilleurs entraîneurs de l'armée sont incapables de faire ce qu'on leur demande, donc moi aussi. Par ces entraîneurs sont les meilleurs dans leur spécialité, mais ils ne connaissent rien ou presque de l'effet des représentations internes sur les performances ni des techniques d'imitation.
Une fois mis dans cet état fécond, j'ai dit au général que j'avais besoin de rencontrer ses meilleurs tireurs afin de savoir exactement comment ils s'y prenaient, mentalement et physiquement, pour réussir à toujours atteindre leur cible.
Après avoir découvert grâce à eux
le petit détail qui change tout,
j'ai pu l'enseigner aux soldats en moins de temps que d'habitude et obtenir le résultat voulu. J'ai découvert les croyances clés que partageaient certains des meilleurs tireurs du monde et je les ai comparées aux croyances des soldats qui rataient leur cible.
J'ai découvert ensuite la syntaxe et la stratégie mentale commune aux meilleurs tireurs et je les ai reproduites afin de les enseigner aux débutants. Cette syntaxe était le produit de milliers, peut-être de centaines de milliers de tirs et de minuscules modifications de cette technique.
Puis, j'ai imité les éléments clés de leur physiologie.
Ayant découvert la stratégie optimale pour produire l'effet en plein dans le mille, j'ai conçu un cours d'un jour et demi pour tireurs débutants.
Vous vous demandez quel résultat j'ai obtenu.
Soumis à un test après moins de 2 jours, 100% des soldats furent admis et le nombre de ceux qui avaient atteint le niveau maximum, tireur breveté, était 3 fois plus élevé qu'après le stage normal de 4 jours. En apprenant à ces débutants à transmettre à leur cerveau les mêmes signaux que les tireurs brevetés, nous avions fait d'eux des tireurs brevetés en 2 fois moins de temps. Je me suis alors occupé des hommes sur qui j'avais pris modèle, les plus grands tireurs des États-Unis, et je leur ai appris à améliorer leur stratégie.
Résultat ?
1 heure plus tard, un homme retrouva un score qu'il n'avait plus jamais atteint depuis 6 mois. Un autre fit mouche, plus souvent qu'il ne l'avait jamais fait au cours de toutes les compétitions de ces dernières années. Et pourtant, l'entraîneur ne leur épargna pas les difficultés. Dans son rapport au général, le colonel parla de la première percée au pistolet depuis la Première Guerre mondiale.
Je n'ai pas raconté cette anecdote pour vous montrer quel grand imitateur je suis, mais pour que vous compreniez que même lorsqu'on a guère d'expérience et même quand la situation paraît impossible, si l'on dispose d'un excellent modèle, on peut découvrir ce qu'il fait de particulier, le reproduire et aboutir ainsi à des résultats analogues en un temps bien moindre que celui qu'on aurait cru nécessaire.
Eh bien, sur ces merveilleuses perspectives de modélisation de comportement d'excellence, nous allons aujourd'hui vous dire un mot que nous aimons vous dire à la fin de nos émissions. Mais avant de vous dire ce mot, nous voudrions vous indiquer que dès la prochaine émission, nous vous proposerons des stratégies vous permettant de modéliser les meilleurs sportifs de notre temps, en particulier les skieurs experts dans leur domaine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici, merci d'être fidèles à Fréquence Bonheur. Avant de vous quitter, nous vous rappelons les principaux éléments de cette syntaxe du succès.
Eh bien, j'espère que vous avez bien suivi le début de ce chapitre, tout comme nous, qui abordait donc la syntaxe du succès. En fait, c'est la clé. La clé du succès, c'est comparable à une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'il y a des ingrédients, des quantités précises à respecter, avec un ordre pour mélanger les ingrédients. Si on veut aboutir donc à une recette réussie, ça me fait aussi penser à l'image du tiercé, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les bons numéros, il faut aussi les avoir dans l'ordre si on veut gagner. Voilà.
Ben, je crois que cette image que vous propose Marie-Hélène du tiercé restera longtemps gravée dans votre esprit. Je vous souhaite à tous de gagner de nombreux tiercés dans l'ordre dans la semaine qui va suivre. Et nous vous disons maintenant ce mot que nous aimons vous dire à la fin, chers auditeurs qui nous avez suivis jusque-là. Au revoir.